le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à tous. Encore une journée de violence en Israël. Deux Palestiniens sont morts hier près de Jérusalem dans des affrontements avec la police de l'État hébreu. Vendredi déjà, trois Palestiniens avaient été tués et trois Israéliens assassinés chez eux dans une colonie juive de Cisjordanie. Un cycle de violence qui a commencé il y a une semaine avec l'installation d'un portique de sécurité sur l'esplanade des mosquées. Décision des autorités israéliennes pour ce lieu saint où prient les musulmans. Alors faut-il craindre un embrasement, une nouvelle intifada? Frédéric Ancel, essayiste et géopolitologue, n'est pas optimiste.
Oui, elle est d'autant plus justifiée qu'il n'y a pas d'espoir au sens où il n'y a pas de perspective de paix. C'est-à-dire que lorsque vous avez un processus de négociation, le dernier en date, il remonte hein, quand même, hein, il date de 2013-2014, avec à l'époque John Kerry et Barack Obama comme président américain, bah, vous avez au moins un espoir et une autorité palestinienne qui peut jouer là-dessus pour contrer les extrémistes et notamment ceux du Hamas. Bon, là, depuis plusieurs années, on n'en a pas et donc, effectivement, je suis relativement prudent, circonspect, voire pessimiste quant à la possibilité d'un vrai retour au calme pérenne.
Alors, au cœur de ces tensions, il y a donc cette décision de placer des détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Comment est-ce que vous analysez cette décision des autorités israéliennes ?
Je vous dirais que c'est quelque chose d'extrêmement technique, c'est confiné à la dimension logistique, sécuritaire, et je vais vous dire, il y a quelques années, lors du processus de paix d'Oslo, je ne suis pas certain que ça aurait constitué un véritable scandale, parce que là on n'est pas sur des questions identitaires lourdes, on n'est pas sur des questions de souveraineté nationale ou religieuse. Mais, comme je le disais, dans l'état de tension permanente, en fait, latente, hein, qui existe depuis plusieurs années maintenant, tout incident, y compris entre guillemets simplement technique hein, comme celui-ci ou perçu comme un incident peut effectivement aiguiser malheureusement les tensions.
Frédéric Ancel avec Ilan Malka. Et pour tenter d'enrayer ce climat explosif au Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir demain lundi. Une demande de la France, de la Suède et de l'Égypte. L'ultimatum de la Commission européenne à la Pologne. Si Varsovie n'abandonne pas son projet de réforme de la Cour suprême d'ici une semaine, le pays sera tout simplement mis au banc de l'Union européenne. Le texte qui a été voté par le Sénat prévoit de mettre à la retraite et de remplacer les juges de cette institution. Il serait désormais nommé directement par le ministre de la Justice. Une atteinte à l'indépendance des magistrats dénonce l'Europe, mais aussi des milliers de Polonais qui ont encore manifesté hier. Seul espoir pour eux que le président mette son veto à la promulgation de la fameuse réforme. Au Venezuela aussi, la population se mobilise contre un texte visant à étendre les pouvoirs de l'exécutif, une réforme de la Constitution. Plusieurs centaines de jeunes ont défilé dans les rues de Caracas hier avant d'être dispersés par les gaz lacrymogènes de la police. Un violoniste de 23 ans a été blessé. Depuis le début de cette contestation, il y a 4 mois, plus de 100 personnes ont été tuées. L'opposition annonce une grève de 48 heures pour mercredi et jeudi prochain. L'Italie ne fermera pas ses ports aux migrants. Elle ne cédera pas aux pressions de l'Union européenne. Mise au point hier du Premier ministre Paolo Gentiloni, 111 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année, dont une très large majorité par le canal de Sicile. Et le gouvernement italien, Marie Duhamel, en a assez de gérer toute seule cette situation.
Angelo Alfano a cru à une boutade isolée quand jeudi dernier son homologue, le jeune ministre autrichien des Affaires étrangères, exigeait la fermeture des ports de Lampedusa en Sicile, sans quoi il menaçait de déployer l'armée à leurs frontières communes. Mais finalement, c'était le premier coup d'une stratégie élaborée cette semaine à Budapest, couchée sur le papier et dévoilée avant même que la lettre n'arrive à Rome par le premier ministre hongrois au nom de ses alliés de Visegrad. Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie réclament une politique plus ferme de la part de Rome. Les quatre pays de l'Est qui ont fait capoter le plan de répartition des migrants au sein de l'UE et qui font à ce titre l'objet d'une procédure à Bruxelles, laissent le choix à l'Italie où Rome ferme ses portes aux migrants, où elle accepte leur aide financière pour créer des centres d'accueil afin d'identifier les demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne. Une leçon qui a poussé à bout la patience du gouvernement italien. Ce mercredi, le président du Conseil a dit n'accepter ni les leçons improbables ni les paroles menaçantes de certains de ses voisins. L'Italie fait ce qu'elle juge être son devoir et attend que l'ensemble de l'Europe en fasse de même, ce qui n'empêche pas Rome de montrer des signes de nervosité après avoir menacé début juillet de fermer ses ports aux navires humanitaires étrangers aux opérations Sophia et Triton. L'Italie veut maintenant encadrer le travail de ses ONG. Une réunion est prévue à Rome ce mardi.
Marie Duhamel à Rome pour France Culture. En France, un millier de personnes ont manifesté hier dans le Val d'Oise pour rendre hommage à Adama Traoré. Ce jeune homme de 24 ans est mort il y a un an lors de son interpellation par des gendarmes. Une troisième expertise a confirmé début juillet que le jeune homme était mort par asphyxie, sans faire pour autant de lien direct avec l'intervention des forces de l'ordre. Mais pour l'entourage d'Adama Traoré, ça ne fait pas de doute, il s'agit bien d'une bavure policière. Reportage de David Ravier.
Alors on se retrouve un an après.
Le ton se veut franc et engagé. En chef de file, Assa Traoré, la sœur d'Adama, arbore un t-shirt sur lequel elle demande justice pour son frère. D'emblée, elle explique le but de ce rassemblement.
Ce qu'on va défendre, c'est casser ce que le système et la société a construit autour de ces jeunes issus de quartiers populaires. Qu'ils arrêtent de les voir comme des brutes, comme des personnes qu'il faut humilier, qu'il faut violenter et tuer. Malheureusement, Adama a fait les frais de ce que la société et l'État français a construit. Et on gagnera le combat seulement quand on aura cassé ce que le système construit autour de ces jeunes garçons issus de quartiers populaires et de nos banlieues.
Plus d'un an après la disparition de son fils, Oumou Traoré reste persuadé qu'Adama est mort asphyxié par les gendarmes et non des suites d'une maladie, comme l'annonçait au départ le procureur de Pontoise.
La vérité était déjà là, mais c'est le procureur de Pontoise qui camouflait, qui a essayé de cacher la vérité. Donc, arrivé à Paris, donc on a su la vérité.
Depuis, le dossier a été transféré à Paris, où l'enquête a été reprise depuis le début. Les trois gendarmes soupçonnés d'avoir provoqué la mort d'Adama n'ont toujours pas été entendus par la justice. Mais Assa est prête à aller jusqu'au bout pour qu'il soit jugé.
De toute façon, on ne lâchera pas tant qu'ils ne seront pas condamnés. Ça, c'est sûr. On ira où il faudra aller, et on tapera sur les portes qu'il faudra taper. Mais c'est la condamnation qu'on veut, quoi qu'il arrive.
Cette condamnation risque cependant de prendre du temps, puisqu'aucune mise en examen n'a été prononcée pour le moment. Adama Traoré aurait eu 25 ans cette semaine.
Un reportage signé David Ravier pour France Culture. Un coup d'œil sur la météo de ce dimanche et du soleil dans le sud-est. Ailleurs, ce sera frais et pluvieux. Le thermomètre est digne d'un mois d'octobre. 15 degrés à Saint-Brieuc, 21 à Lille et Paris, 23 à Strasbourg, 25 à Chambéry. Il fera 24 degrés à Bordeaux, 30 à Marseille et en Corse et jusqu'à 34 degrés en Avignon.